Thibaut de Rouvray, bonjour.
Bonjour Mathias Terrier.
Vous êtes président de la Société Académique des Hautes-Pyrénées et merci beaucoup de nous accompagner, d'accompagner nos auditeurs sur ce patrimoine que vous aimez tant. Patrimoine souvent sacré, parce que c'est l'objet même de cette chronique. Hein. Alors vous nous faites visiter les cathédrales, vous nous faites découvrir tel ou tel aspect de notre petit ou grand patrimoine et qui souvent parle de notre sacré. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux vêtements liturgiques et aux couleurs liturgiques. Peut-être commençons par les couleurs, parce que quand on voit un prêtre, un diacre, on se dit mais bon, tantôt il est en violet, en rose, en blanc, il y a du rouge. Toutes ces couleurs ont une vraie signification. Est-ce qu'on peut les passer en revue ?
Oui, tout à fait. Ce n'est pas que du décorum, mais on peut considérer qu'il y a 6 couleurs liturgiques principales et chacune est destinée à un temps particulier et à sa symbolique.
Alors, bon, ces 6 couleurs, quelles sont-elles ? On les énumère et puis rapidement, on dit ce dont il s'agit et pour quelle période ?
Oui, alors si on prend le violet, par exemple, c'est pour la période de l'Avent ou du Carême, pour les fêtes des Saints Innocents. Voilà, la symbolique, là, c'est l'attente, la pénitence, la mortification.
Alors, on l'utilise aussi pour les rogations. Alors, je ne sais pas si on sait encore ce que sont les rogations, mais c'est la bénédiction des champs et des récoltes.
Voilà, c'est souvent quelque chose qui est associé à des processions qu'on faisait auprès de croix ou de calvaires dans les campagnes.
Donc ça, c'est le violet. Le rose, alors, assez méconnu. On utilise le rose pourquoi ?
Alors, le rose, il est assez rare. Hein. Je pense qu'il faut quand même avoir des paroisses importantes ou des cathédrales ou des sanctuaires pour avoir des ornements roses, puisqu'on ne l'utilise que 2 fois dans l'année, à l'occasion du 3e dimanche de l'Avent, qui est dit de Gaudete, ou le 4e dimanche de Carême, dit de l'aetare.
Donc ça, c'est l'allégresse,
c'est... Voilà, c'est l'allégresse, mais modérée. Ah. Voilà, on ne se lâche pas totalement, mais on se prépare à être joyeux.
D'accord. Bon, et le blanc ? Le blanc est aussi une couleur liturgique. Quand l'utilise-t-on ?
Alors le blanc, voilà, il est assez répandu pour les périodes de Noël, de l'Épiphanie, pendant tout le temps pascal également, et puis toutes les fêtes du Seigneur, de la Vierge, la dédicace des églises, aussi les fêtes célébrant les pasteurs ou les docteurs de l'église, les anges, les confesseurs, donc beaucoup d'utilisations possibles avec une symbolique de joie, de pureté et de gloire.
Bon, on voit aussi parfois des ornements avec de l'or, de couleur or. Quelle est l'utilisation et pour quelle période ?
Alors, on peut utiliser très régulièrement l'or, d'ailleurs dans beaucoup de paroisses rurales qui n'avaient pas les moyens de s'acheter énormément d'ornements, il y a au moins une chasuble dorée, c'est la couleur de toutes les solennités, on peut l'utiliser pour les mêmes fêtes que le blanc, et le or peut aussi remplacer la couleur rouge ou verte.
Voilà, alors justement, parlons du vert et du rouge. Le vert s'utilise quand ?
Alors le vert, on va l'employer dans le temps de l'Épiphanie jusqu'au mercredi des cendres, et ensuite du lundi de Pentecôte à la fête du Christ roi, avec une évocation, le vert, d'espoir et de croyance en la vie éternelle.
Voilà. Et le rouge ?
Et le rouge, pour terminer, on va l'utiliser pour la Pentecôte, et pour les fêtes de la Sainte Croix, pour les apôtres, les évangélistes et les martyrs. Hein, c'est l'évocation du sang et du feu de l'amour divin qui a animé les martyrs.
Voilà l'explication donc pour ces 6 couleurs liturgiques, violet, rose, blanc, or, vert et rouge. Maintenant, ces couleurs s'appliquent sur des vêtements liturgiques. Alors, parlons maintenant des vêtements, justement. Quels sont ces vêtements liturgiques qui sont les plus communément utilisés ou bien qui constituent l'essentiel de ces vêtements ?
Alors, ces vêtements, c'est vrai qu'on les visualise, ils ont une histoire très ancienne. Ils ont été, en fait, codifiés dès le VIe siècle à partir, le plus souvent, de vêtements laïques qui ont été adoptés par les religieux et ont été conservés. Si on prend par exemple, de l'aube, de la tunica alba, la tunique longue blanche qui était brodée dans le lin, elle était une tenue d'intérieur portée au Moyen-Âge et elle vient devenir vraiment un vêtement réservé aux cérémonies liturgiques.
Voilà. Et on parle parfois de la chasuble.
Oui, la chasuble qui est le vêtement de dessus porté sur l'aube par le prêtre. Au départ, c'est une sorte de manteau de voyage, une sorte de grande pièce d'étoffe coupée en cercle avec un trou au centre pour passer la tête. Alors, trivialement, on pourrait visualiser une sorte de poncho.
Oui, donc on connaît assez bien l'aube, la chasuble, on voit, et la dalmatique, c'est moins connu peut-être.
Oui, la dalmatique, c'est la tenue qui est réservée au diacre, donc qui à l'origine est une tunique avec des manches longues, qui ensuite a évolué, ces manches sont transformées en rabat, et l'origine du nom, c'est qu'elle était réalisée au départ en laine blanche provenant de Dalmatie.
D'accord, et donc là c'est la dalmatique pour les diacres, hein, particulièrement.
Voilà, tout à fait.
Il y a parfois l'utilisation d'une chape. Alors là, on s'imagine que c'est un manteau.
Voilà, c'est tout à fait chape ou cape, hein, on le trouve parfois appelé pluvial. À l'origine, c'est un manteau destiné à se prémunir de la pluie, qui était muni d'une capuche, et ça devient cette cape pour les cérémonies religieuses. Et la capuche a évolué en chaperon qui est appliqué sur le haut des épaules.
Précisons-le là, tous ces vêtements liturgiques sont encore utilisés, et par exemple, quand on vient à Lourdes, on peut voir hein, lors des processions tout ou lors fait. De telle ou telle célébration, tous ces vêtements liturgiques. Il reste l'étole. C'est important, l'étole.
Oui, l'étole, voilà, qui est portée autour du cou, avec les rabats qui pendent sur le devant du corps, hein, c'est le témoignage de la prêtrise. Les diacres la portent sur l'épaule, en biais. Au départ, elle dérive probablement de bandes décoratives verticales qui décoraient le devant des habits romains.
Et parfois, on a parlé aussi dans l'histoire du manipule, pour parler d'étole.
Alors le manipule, voilà, c'est une sorte de...
Ça correspond un peu à l'étole.
Voilà, c'est une sorte d'étole en miniature, hein, qui a la même forme, mais qui se portait au poignet gauche voilà, autrefois, et qui dérive vraisemblablement d'une sorte de mouchoir des premiers siècles.
Un ornement, c'est-à-dire un ensemble de pièces, de vêtements liturgiques, ça comprend quoi, au fond ?
Alors, un ornement voilà, va comprendre cinq pièces, donc la chasuble, l'étole, le manipule, qu'on a cité, et ensuite des éléments, la bourse de corporal et le voile de calice qui va recouvrir la pale.
Voilà, bon, vous voyez, tous ces mots, peut-être que beaucoup d'entre ceux qui nous écoutent se disent « Oh là là, jamais entendu parler de tel ou tel ». C'est très intéressant. Ben, vous pouvez taper sur Internet hein, pour aller plus loin sur la connaissance de la bourse de corporal, du voile de calice, etc. Une précision sur la tenue des moines. Est-ce que c'est d'abord un vêtement liturgique ou bien ça correspond à autre chose ?
Alors la tenue des moines, par exemple les bénédictins, tels qu'on les voit toujours actuellement, c'est vraisemblablement la tenue qu'avaient les paysans du haut Moyen-Âge hein, pour aller dans les champs.
Donc ce n'est pas un vêtement liturgique
hein. Non, voilà, les moines, ouais. Pour la liturgie, vont revêtir...
Ce dont nous venons de parler.
Voilà.
Et après, sur les matériaux utilisés, est-ce que là, il y a aussi une sorte de codification, ou en tout cas des habitudes, des pratiques, des traditions ?
Alors ces matériaux, au fil du temps, ils ont suivi la mode. Hein. Bien sûr, au départ, beaucoup de lainage, de tissus de lin. Mais très tôt, dès l'époque romane, on a des soieries qu'on fait venir d'Espagne ou de l'Empire byzantin. Et puis on utilise, à l'époque de la Renaissance, des velours très épais, damassés. Et parfois, on en vient à avoir des couleurs très fantaisistes hein, avec des costumes, puisqu'on utilise les mêmes textiles que pour l'ameublement ou les vêtements civils.
D'accord. Alors justement, sur ce qui est représenté sur ces tissus, les motifs sont-ils toujours religieux ou à l'origine, est-ce que c'est religieux les motifs qu'on trouve sur les tissus, les
vêtements liturgiques ? Alors jusqu'au XVIIIe siècle, voire début du XIXe siècle, non, ce sont des motifs décoratifs, des bouquets de fleurs, parfois même des oiseaux brodés, enfin des choses qu'on utilise, qu'on pourrait très bien avoir sur des tissus d'ameublement. C'est vraiment à partir du XIXe siècle que les soyeux, les fabriques réalisent des tissus spécifiques avec des motifs de chardon, de croix, qui sont réservés à l'usage des vêtements liturgiques.
Oui, alors justement, qui les fabrique, ces vêtements liturgiques ?
Alors, au XIXe siècle, c'est l'époque de la Révolution industrielle, donc il y a des grands centres de fabrication de vêtements liturgiques, en particulier Lyon, bien sûr, avec toute l'industrie de la soie, mais aussi des villes comme Toulouse, avec la fabrique de la maison Mona, par exemple, qui avait aussi une succursale à Lourdes, et puis parfois aussi des religieuses dans les couvents qui se spécialisent dans cette réalisation.
Aujourd'hui, ce sont toujours des grandes maisons hein, qui, j'imagine, travaillent sur ces vêtements liturgiques. Et puis, on voit aussi, alors je répète, à Lourdes, de très très beaux vêtements liturgiques. Même s'il n'y a plus de trésors, enfin de musées qui permettent d'exposer tous ces vêtements. Mais on peut les voir lorsqu'on vient aux cérémonies et notamment aux processions. Merci beaucoup. Thibaud de Rouvray. Je rappelle que vous êtes le président de la Société académique des Hautes-Pyrénées et historien. Au revoir, à bientôt.
À bientôt.